Bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Business Club en compagnie de Mam Ibrahan. Hello Mam, ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va super. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui est d'ailleurs la première femme qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette saison du Business Club. Elle a mis un terme à sa carrière dans le cyclisme pour se consacrer au stylisme. Nous accueillons Basma, plus connue sous le nom de Bas de Plug. Salut Basma, comment tu vas ?
Ça va super et toi ?
Ça va super. Très content de te recevoir.
Merci.
Je disais dans ta présentation que tu as une carrière dans le cyclisme avant de t'orienter vers le stylisme. Ce qui pousse à demander comment tu t'es orienté vers le stylisme. Parle-nous un peu plus de ton parcours.
Alors, c'est vrai que le stylisme, ça m'est tombé dessus. J'étais totalement dans le sport. J'ai commencé le sport quand j'avais 7 ans. J'ai rejoint très vite l'équipe de France à mes 15 ans. J'ai eu plusieurs titres et je m'entraînais à l'INSEP sous l'aile de Grégory Boget pendant 3 ans. Et quand j'ai décidé, enfin, il y a eu le confinement, c'était un peu compliqué. Du coup, vu que moi, je vivais hors INSEP, j'avais mon taf, j'avais mes études à Sciences Po Paris. J'avais vraiment une vie, on va dire, un peu hors sport. Et un jour, en sortant du boulot, coïncidence totale, j'ai rencontré Weshden qui me demande si j'étais styliste. Je dis oui, alors que en vrai, non. Mais juste après, je me suis donné les moyens. Elle m'a contacté le lendemain à 14h, alors que j'étais au boulot, pour me dire, voilà, j'ai une session de shooting à 17h. Est-ce que tu peux me ramener 2-3 tenues pour shooter ? J'ai dit oui. Je suis allée voir la directrice. Je lui ai dit que j'avais mal à la tête pour pouvoir quitter l'établissement. Et puis, je ne savais pas trop comment ça se passait. Je ne savais pas voilà, qu'il y avait des relations PR, qu'il y avait des showrooms, qu'on pouvait collaborer avec des marques. Donc, je me suis donné les moyens. Je suis allée acheter les habits. Et le shooting s'est super bien passé. Le soir même, c'était nuit blanche sur nuit blanche pour apprendre le métier. Et j'ai tout appris sur le terrain.
Donc, c'est vraiment ton style, en fait, qui a flashé dans les yeux de Weshden.
Exactement. C'est le style, c'est le flow. Elle m'a dit, tu t'habilles trop bien. Est-ce que tu es stylé ? J'ai dit oui et c'est parti de là.
Ok, super, top. Donc, désormais, tu es styliste. Tu travailles avec de nombreux artistes. Tu as notamment cité Weshden, mais aussi avec de nombreux sportifs. Je pense notamment à Kamavinga ou Serge Ibaka. Est-ce qu'il y en a d'autres encore que tu peux citer ?
Il y en a d'autres que je peux citer, mais pas trop. J'attends que ça sorte, comme ça, vous verrez tout en même temps, parce que c'est un peu des contrats qui sont confidentiels. D'accord. Mais du coup, justement, avec ces athlètes-là, c'est plus une agence d'image que j'ai montée. D'accord. Ça veut dire que je les accompagne, oui, sur du stylisme et de la création de contenu. Mais je pense que vous pourrez voir dès le mois de juin les belles collaborations qui ont été mises en place avec de très belles marques de luxe et ces athlètes-là ou ces artistes-là que vous pourrez voir prochainement.
Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été amené à bosser avec des sportifs, puisque tu as commencé par les artistes. Comment tu t'es orienté vers les sportifs par la suite ?
C'est les sportifs qui m'ont contacté sur Instagram. Je pense que le monde de la musique et le monde du sport, ça se rejoint. C'est deux mondes qui s'aiment beaucoup. Les athlètes regardent ce que font les artistes et les écoutent. Et les artistes regardent ce que font les sportifs et vont les voir. Du coup, forcément, quand on travaille avec des artistes, moi, j'ai une certaine visibilité. On avait tendance à me reposter, à partager mon travail. Et du coup, tout simplement, les athlètes se sont penchés sur ça. Et à savoir que il y avait déjà pas mal d'athlètes de l'INSEP qui savaient un peu mon parcours. Et du coup, c'est du bouche à oreille. Et les athlètes, les footballeurs notamment aujourd'hui, m'ont contacté et ça s'est fait comme ça.
Okay. Donc toi, les réseaux sociaux t'ont beaucoup aidé dans l'ascension de ta carrière, entre guillemets.
Exactement. Les réseaux sociaux et le carnet d'adresses. Okay. C'est super important.
Et est-ce que tu peux nous dire comment s'organise les collaborations avec les sportifs, est-ce que tu as aussi un rôle de personal shopper ou c'est vraiment deux métiers distincts, le stylisme et l'aspect personal shopper ?
C'est vraiment quelque chose qui se rejoint, oui. Ça veut dire que les athlètes, quand par exemple on va faire une session de stylisme ou une session de création de contenu, ils vont tout de suite avoir la logique de me demander « Bas, est-ce que tu peux me rapporter ça, ça, ça ? Je cherche grave ça, je cherche grave ça. » Et voilà, j'ai un petit aussi projet qui va sortir très prochainement sur la sneakers. Donc voilà, je bosse beaucoup avec After Drop, j'en dirai pas plus, mais il okay. y a des grandes choses qui arrivent aussi.
On n'a pas le droit à des exclus.
Non, je garde ça bien confidentiel, j'en parlerai quand ça sortira. Mais voilà, du coup, même au niveau de la chaussure, on a tendance à beaucoup me demander, parce que je bosse avec beaucoup de resellers, etc. Et pareil, au niveau de la SAP, j'ai accès à pas mal de réductions, aux ventes privées, etc., ce qui intéresse beaucoup... les artistes comme les athlètes, donc c'est vrai que je fais aussi beaucoup de personal shopping à travers le monde entier.
De ton point de vue, quelle est l'importance réelle de l'image pour les athlètes aujourd'hui ?
Franchement, c'est tout. Moi, quand j'étais athlète, je le disais à mon coach tout le temps, je lui disais, moi, je ne veux pas être que cycliste. J'en avais marre de venir sur la piste, pédaler, rentrer chez moi. Je pense que voilà, en tant qu'athlète, on a des grandes qualités et il faut savoir les explorer. Et je pense qu'on peut les explorer justement à travers l'image, renvoyer un message à ceux qui nous regardent. Et j'ai toujours voulu avoir ça. Et en fait, je pense que tout simplement aujourd'hui, ce que je n'ai pas pu avoir, c'est ce que je retransmets aujourd'hui et c'est ce que je veux vraiment offrir aux personnes avec qui je travaille. C'est que, ok, vous êtes super fort dans votre sport, mais vous êtes aussi avant tout des humains. Et avec votre personne, on peut faire de grandes choses au-delà du sport et au-delà des capacités physiques.
En fait, les manques que tu as constatés en tant qu'athlète, tu as voulu les mettre à disposition des autres.
Totalement, okay.
Toi, Mam, justement, est-ce que t'as cette même vision ?
Oui. Oui, je pense qu'elle a raison et je pense qu'elle a pris un créneau qui était au-delà de son destin. Je pense que c'est un créneau qu'elle a su limite sauter ou même sauter sans parachute puisque ça manquait beaucoup. Un visage féminin via ses origines aussi et via la place et la culture qu'il y a aujourd'hui. Cette culture de la SAP, elle est importante. Je pense que il y avait beaucoup de footballeurs et il y en a toujours qui vont acheter un ensemble Gucci de la tête aux pieds et c'est pas forcément très esthétique porté. Donc non, c'est quelque chose qui se démocratise. Je pense qu'aux États-Unis, c'est plus dans les mœurs. C'est le fait qu'elle le change ici. Bravo.
Merci.
Tu disais aussi le fait d'acheter un ensemble Gucci, ça fait pas tout. Est-ce que ces conseils-là que tu prodigues aux athlètes qui peuvent peut-être parfois penser que juste acheter des pièces de luxe, ça suffit. Comment tu vas leur présenter que ta personne est une plus-value ?
Eh bien, en fait, pour moi, la marque, c'est bien. Je ne rabaisse pas du tout la marque, mais je pense que, voilà, il y a des grands designers qui sont très forts, qui font des très belles pièces qu'il faut des fois mettre en avant. Et justement, en fait, quand ces athlètes-là ou ces artistes-là portent ces pièces, tout le monde se demande d'où ça vient. Et voilà, du coup, c'est pas forcément la marque qui fait tout. Et oui, les athlètes, tu me posais la question pour l'image, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Et bien, c'est tout simplement, en fait, ce qui dégage, les marques, ça les intéresse, tu vois. Donc, il faut juste savoir faire les bons plugs, d'où vient mon nom, base de plug. Savoir faire les bons plugs et les bonnes connexions pour faire de belles choses, tout simplement.
Okay.
Et surtout, il y a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, une marque, c'est un creative director derrière. Il y a eu beaucoup de changements sur les 3-4 dernières années. Et c'est là où il y a une certaine subtilité aussi, c'est de comprendre pourquoi je porte cette pièce-là, pourquoi aussi c'est du luxe, quelles sont les matières utilisées. Et aussi, quand tu as une personne qui a cette compétences qu'il connaît aujourd'hui, je pense que là tu dois connaître à peu près tous les creative directors qui existent dans le monde, pourquoi telle collection, pourquoi tel produit, et ça c'est aussi donner une vraie plus-value je pense à tes clients.
Exactement, c'est vrai que chaque marque a sa direction artistique, la marque va pas travailler avec tout le monde, même si la personne a 400 millions de followers, c'est pas ce qui l'intéresse, c'est vraiment ce que la personne en face dégage. Et c'est pour ça, tout simplement, si on regarde tout simplement les défilés de la Fashion Week, il n'y aura pas tous les mêmes invités à tous les défilés. Parce que chaque marque a sa direction artistique qui lui est pure, qui lui est propre. Et c'est ce qui fait la différence, tout simplement.
Mais tu n'as pas l'impression que c'est plus accessible qu'auparavant, en tout cas pour plus d'athlètes déjà ?
Je pense que c'est pas une question d'accessibilité, c'est une question de plus les mettre en avant. Je pense que c'est quelque chose que les athlètes avant, et je pense encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont ignorants par rapport à ça, qui se disent, voilà, je suis là pour faire du sport, m'entraîner, aller chez le kiné, bien manger et dormir, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire à côté. C'est juste, voilà, que l'athlète doit, je pense, bien s'entourer et voilà, qu'on lui donne vraiment toutes les clés qui peuvent l'amener au meilleur succès qu'il peut avoir.
Ok. Toi, même tu t'occupes de nombreux talents. Est-ce que ces talents-là, ils sont amenés à travailler avec des stylistes? Et durant ta carrière, est-ce que tu as songé à travailler toi-même avec des stylistes?
Alors, pour les talents, oui, déjà sur les projets un peu spéciaux, donc avec des marques, quand c'est hors sport, entre guillemets, ou même quand c'est du sport, hein, parce qu'aujourd'hui, tu as des marques qui ont quand même du lifestyle, mais très très premium. Donc, du coup, tu es obligé d'avoir bah, la bonne styliste, le bon creative director, tout ce qui rentre, le bon photographe aussi. Je pense que là, c'est tout un ensemble pour avoir bah, le meilleur rendu pour le client, le meilleur rendu pour la marque. Et après, pour moi, je pense que j'ai de la chance parce que j'ai une grande famille, donc les cousins, les cousines ou les gens qu'on avait dans le réseau qui nous permettaient bah, souvent de pouvoir avoir des trucs un peu premium ou des accès sur des trucs, pouvoir s'acheter des vêtements ou même des marques directement. Et c'était quand même quelque chose d'assez important. Et souvent, on le dit, c'est que par le sport, même si par exemple les sports comme les sports dits mineurs, t'as pas forcément, tu gagnes pas des milliers de cents, mais tu es souvent invité. Et bah, quand tu es invité dans plein d'événements sur la même semaine, tu peux pas aller avec la même paire, tu peux pas aller avec la même veste, tu peux pas aller avec le même bas. Donc il faut savoir se réinventer et pouvoir aller passer par une marque, avoir un costume, passer par un autre truc. Et donc c'est cool. Après, ce qui est cool, c'est quand tu as une personne qui a vraiment cette expertise-là et qui peut l'apporter à un plus grand nombre, je trouve que c'est pas mal.
Je vais revenir sur un plan business. Concrètement, on en a parlé, mais quel type d'activation le fait d'avoir une image bien travaillée, ça peut apporter pour les sportifs?
Ça peut apporter beaucoup, beaucoup. Je pense que les sportifs aujourd'hui, quand ils voient une cover d'un mag, ils veulent y être aussi. Ça
Ok.
les fait kiffer. Quand ils voient la Fashion Week, ils savent même pas trop ce que c'est en fait. Ils voient la Fashion Week, ils se disent il y a des défilés, ok, mais en vrai, ils savent pas ce que c'est. Ils se disent c'est un truc de mode. Et en fait, voilà, leur apprendre ça, leur dire quel privilège ils pourraient avoir avec tout ça, c'est un bonus pour eux et c'est ce qui vraiment leur donne envie. Et la volonté de vouloir travailler leur image aujourd'hui.
Justement, quel privilège ils pourraient avoir avec tout ça?
Quel privilège? Eh bien, tout simplement avoir de belles collaborations, pour parler français, avoir de l'argent en plus. Et tout simplement, tout ça mène, c'est vraiment une suite logique, avoir de meilleurs contrats derrière. Je pense qu'une marque ou une équipe. Travailler avec quelqu'un qui a déjà une image très développée à l'extérieur, que ce soit dans les médias ou dans les marques, ça va tout de suite donner une plus-value et une négociation au contrat sportif.
Tu parlais des athlètes qui n'ont pas forcément conscience de l'impact que ça peut avoir, mais est-ce que tu as des athlètes qui font appel à tes services en ayant des objectifs bien déterminés, bien prédéfinis? Ou seulement c'est plus un aspect, ouais, je veux avoir du style, etc. Est-ce qu'il y en a qui viennent vraiment en disant, ouais, je veux faire ça dans la mode, je veux atteindre tel objectif, etc.
Non, j'en ai pas eu. Pour donner l'exemple de Eduardo Camavinga avec qui je travaille aujourd'hui, il m'a contacté au début pour du contenu, donc vraiment pour du shooting et pour du contenu lifestyle. Et quand je lui ai appris ce qu'on pouvait faire avec son image et avec ses résultats sur le terrain, c'est là que ça l'a intéressé. Mais du coup, c'est moi qui me charge plus. Voilà, cette année-là, on vise ça, ça, ça. L'année prochaine, on va viser ça. L'année prochaine encore, ça, ça, ça. C'est moi vraiment
Ok,
qui.
tu fixes les
Ouais.
smart objectifs entre
Exactement,
guillemets.
ouais.
Ok. Et est-ce que l'aspect sportif, il doit être forcément bon pour pouvoir développer des activations dans la mode?
Ouais. C'est comme. Ça me donne un peu l'exemple du sport-études. Quand je faisais mon sport et mes études, si j'avais pas des bonnes notes, j'avais pas le droit de m'entraîner. Et je pense que le sport et l'image, c'est un peu la même chose. Si voilà, tu penses que tout va arriver sur un plateau et que tu n'as plus besoin de faire de bons résultats, de marquer des buts, de courir vite ou de rouler vite, ça sert à rien. Genre, va t'entraîner et après ça va suivre. C'est comme quand je dis, moi je suis pas, par exemple moi ma personne, je suis pas quelqu'un à propos de l'argent, je suis quelqu'un à propos du résultat et l'argent va venir. Et ben c'est la même chose.
Mais donc comment ça se passe quand, par exemple, pour un sportif, les résultats sont un peu moins bons? Est-ce que finalement ton travail il sera moins sollicité ou
Ça dépend, on ne peut pas juger ça sur une performance. C'est vraiment sur le long terme. De toute façon, on le voit quand il y a un acharné devant nous ou quand il y a quelqu'un qui dort. Donc, même moi, ça me permet de filtrer, de savoir avec qui je travaille. Donc, ce n'est pas un souci.
Est-ce que ça, toi, tu le remarques, même que peut-être certains athlètes sont plus focus sur autre chose que sur les performances? Est-ce que tu leur rappelles souvent que non, mais il faut avant tout être performant?
Ah, je pense que ouais, c'est le facteur numéro un. Après, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de faire comprendre ça, je pense, à la
Nouvelle
génération,
génération.
ouais, la génération un peu plus jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux, tout le monde veut beaucoup de followers, tout le monde veut tel et tel sponsor. Tout le monde va dire, ah, mais j'ai vu lui avec la dernière paire, ah, mais j'ai vu, il a fait cette campagne, moi aussi, etc., etc. Alors que c'est beaucoup une question d'opportunité, c'est une question de temps. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est beaucoup les filles. Elles le méritent amplement. Et donc, du coup, il y aura des campagnes qui seront beaucoup plus grandes avec certaines marques. Et c'est une question de stratégie. C'est aussi une question de business. Et savoir, entre guillemets, jauger entre le côté je suis présent sur les réseaux et le côté performance. Si tu es performant, tu seras sur les réseaux ou tu auras une médiatisation qui fera en sorte qu'on parle de toi au bon moment. Savoir bien communiquer. Je pense que quand on fait des plans stratégiques comme tu peux le faire, c'est savoir utiliser les temps forts et les temps faibles pour avoir la meilleure résonance pour le client. Donc, c'est hyper important. C'est des choses à faire comprendre aux plus jeunes. Beaucoup ont du mal au début et dans la gestion de la carrière aussi, puisque une personne qui a 20 ans, t'as pas les mêmes demandes et t'as pas les mêmes besoins que quelqu'un qui a 25 ou 30 ans. Donc voilà, la strat rentre d'une manière. Allez, je vais dire primordial, et c'est même fondamental d'avoir tous les éléments, et je pense de pouvoir expliquer aux clients comment agencer tout ça.
Ok. Bah, tu as des clients qui sont très jeunes, justement, mais toi aussi, tu es très jeune. Comment on fait pour se faire un nom auprès de ces sportifs-là et gagner leur confiance, acquérir une certaine crédibilité?
Moi, je pense que c'est le travail. Moi, je suis quelqu'un, comme le dit Kylian, il n'y a pas d'âge, depuis très très jeune. Moi, je suis sortie de chez moi très jeune, à 15 ans. J'étais déjà livrée à moi-même, je payais déjà mon appartement, je payais déjà mes courses pour remplir mon frigo. Ça veut dire que je sais ce que c'est que l'argent et je sais ce que c'est que les valeurs et le mérite. Du coup, le travail, pour moi, c'est primordial et je pense que tout simplement, ces personnes-là, pour te dire, ils oublient mon âge. Ils ont tendance à oublier mon âge. Des fois, on va en parler, ils vont dire ah, oh, non, mais c'est vrai que. Et du coup, bah, tout simplement, je pense que voilà, c'est le travail, c'est le charbon. Et je pense que la crédibilité, je l'ai acquise sur le long terme et court terme en même temps, parce que ça fait qu'une année que je fais ça. Mais ça fait un an à temps plein que je fais ça. Je ne sais pas ce que c'est que les vacances encore. Des fois, je me fais des petits week-ends où je coupe, mais c'est vrai que je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis très droite dans mes baskets, dans tout ce que je fais. Je fais des rendus à tout le monde. Et j'ai toujours été carré, donc je pense que c'est ce qui paye aujourd'hui et j'espère que ça payera encore longtemps.
Comme tu dis, ton ascension, elle a été très rapide.
Ouais.
Est-ce que tu arrives à te projeter sur dans 5 ans ou dans 10 ans?
Je sais, mais en même temps, je sais pas, parce que tout va tellement vite. Mais je me dis que tout peut redescendre aussi vite que c'est monté. Du coup, ben, je reste beaucoup sur mes gardes, mais en même temps, je me donne tout le temps à 200%. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Si, je pense que je suis bien entourée. Je pense que je suis bien entourée et que je travaille beaucoup. Et je suis quelqu'un de très honnête, que ce soit avec moi-même ou avec les personnes avec qui je travaille. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça continue pas. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain.
Okay. On a parlé beaucoup des marques de luxe et du pont qui est fait avec les athlètes. Est-ce que l'accessibilité à ces marques, elle dépend aussi de la discipline des athlètes ou pas forcément?
Oui, je pense que la discipline, c'est-à-dire dans le
Par exemple, un
comportement.
footballeur, est-ce qu'il aura plus facilement accès à certaines marques au vu de sa notoriété qu'un, je sais pas,
Un boxeur.
un boxeur ou...
Oui et non. Je pense que c'est vraiment selon la marque. Il peut y avoir un creative director qui est boxeur depuis tout jeune et qui, du coup, va donner plus de valeur à un boxeur qu'à un footballeur. Il y a des coups de poker partout, c'est un peu comme dans la vie, mais je pense que voilà, c'est plus comment la personne va venir présenter le profil qui va aussi importer, mais voilà, il y a des balances selon ce que préfère tout simplement la marque, tu vois. Mais la présentation du profil, c'est super important, et du coup, dans tout son aspect, ça veut dire dans l'aspect sportif comme dans l'aspect humain.
T'as eu, est-ce que tu as souvent des retours sur le fruit de ton travail? par rapport à des collaborations qui sont créées entre des athlètes et des marques, mais par rapport à ton travail en amont.
Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours du coup une boîte email qui va regrouper vraiment tout cet aspect-là, qui sera mis en bio dans la...
Mais ça passera forcément par toi.
Ouais, c'est moi qui gère ça avec l'athlète. Et en fait, je pense que voilà, tout ce travail en amont, que ça soit la création de contenu, la façon dont il va poster, la façon dont il va poster des stories, etc., ça joue, les marques voient. Il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, voilà, Instagram, c'est un réseau où tout le monde voit tout et c'est réel, tu vois. Okay. Genre, on a tendance des fois à négliger, à se dire « Oh, c'est bon, je poste comme ça et tout ». Mais non, aujourd'hui, tout le monde voit tout, tout le monde vieux de tout. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et je pense que voilà, tout le travail en amont de la création de contenu, de la façon dont tu postes le sport et en même temps, tu postes le lifestyle, de la façon dont tu n'oublies pas dans le monde de la mode, eh bien, c'est super important et c'est pour ça que les marques contactent. Et oui, j'ai des retours par rapport à ça. Et justement, je filtre tout ça tous les jours et c'est super intéressant et je suis contente.
Ok. Ce cross entre le sport et l'aspect fashion, on le remarque de plus en plus aujourd'hui. Au-delà de l'aspect image, comment ça s'explique socialement qu'il y ait de plus en plus d'intérêt dans les deux sens?
Je pense que c'est la mondialisation, hein, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, comparé à 15 ans, aujourd'hui... même avec un petit pouvoir d'achat, tu peux aller chez Louis Vuitton te faire un petit cadeau, tu peux pousser les choses, tu peux essayer justement d'avoir le petit truc que tu as vu sur une série. Je sais pas, moi je suis un grand fan de la série Power.
Voilà, il y a des grosses pièces dans cette série.
Donc, non, mais tu vois, c'est comme ça, c'est tout ce qui est visuel aujourd'hui. Donc quand tu as l'habitude de voir certaines choses, peut-être que des fois tu dis je vais travailler, je vais me l'acheter, j'ai mon job étudiant, je vais le faire, ou j'ai les revenus pour le faire. Et donc, c'est ça qui incite, je pense, les gens à le faire de plus en plus. Et encore une fois, les réseaux sociaux, il y a de beaux exemples, des gens qui ont une belle partie lifestyle et les gens se disent, OK, quand je finis l'entraînement, je ne vais pas rentrer tout en jogging, je vais me changer, je vais prendre ma douche, je vais me changer, je vais mettre mon petit parfum, je vais mettre mon petit truc et chaque détail compte, des bijoux, des montres et autres. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et là, comme on le dit là dans le football, mais la vérité, c'est quoi? C'est que dans le football, les Italiens, ils s'habillaient déjà super bien après leur match. Donc du coup, il y avait ça. Les Américains, le côté, OK, quand tu arrives sur le parquet, les avant-matchs, tu es en costume et autres. Et donc, c'est des cultures qui sont installées. En France, je pense que ça se développe aujourd'hui de plus en plus. Il y a quand même une grosse différence sur un match de Ligue 1 ou un match de Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on est en costume, mais en Ligue 1, on est plutôt en survêt avant les matchs. Donc, c'est des cultures, c'est une culture, c'est des choses à changer. Et ça changera aussi parce que mondialement, on change. Il y a des évolutions, il y a des styles, il y a des critiques sur ce que tu portes. Il y a des comptes qui sont dédiés justement à ça pour dire comment tu t'es habillé et autres. Et donc du coup, ça se développe et on s'en rend compte avec tous les médias aujourd'hui. Donc voilà.
Tu partages cette vision, toi, que
Ouais, totalement.
Ok. Maintenant, on va plus.
Donc, on va pouvoir faire du business alors.
D'ailleurs, j'ai une question. Je peux?
Oui, vas-y, pas de souci.
Toi, quand tu étais athlète, du coup, comment tu étais accompagné et pourquoi, genre, aujourd'hui, tu mets en place tout ce dispositif justement pour les athlètes que tu accompagnes? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Et toi, comment, toi, tu étais accompagné quand tu étais athlète?
Tu vas prendre ma place.
Alors, moi, comment j'ai été accompagné? Franchement, quand je te dis vraiment la famille, des cousines qui travaillent dans des maisons de luxe, qui me disaient, ah, tiens, un petit cadeau, comme tu fais du sport, tel et tel résultat. Et ça m'a, entre guillemets, un peu ouvert les yeux sur le côté, tu bosses bien, tu peux avoir des petits cadeaux et c'est plutôt cool.
À partir de quel âge?
À partir de 16 ans déjà.
Ok.
Déjà un peu, comme j'étais un peu plus jeune quand même que mes cousins, cousines. Donc déjà, il y a eu ce premier levier-là. Le deuxième, et je pense que c'est fondamental, c'est que je suis parisien. J'ai grandi dans le 15e.
Ok.
Donc du coup, je pense que ça fait quand même une diff. On avait tous ce côté, on aime beaucoup les vêtements. Je me souviens à l'époque, il y avait un équipementier qui avait plusieurs modèles de chaussures. Et nous, on achetait un modèle chacun et on échangeait une paire pour avoir justement une couleur et l'autre. Enfin, tu vois, les trucs de gamin, mais voilà, c'est ce qu'on faisait. Et on voulait avoir du style, ou les premiers crampons genre fluo, on se tapait pour avoir ça quand on jouait un peu au ballon.
Et t'étais donc, déjà sur les réseaux?
Et pas encore. J'ai commencé Insta un peu comme tout le monde au début, mais j'avais pas le côté où je postais vraiment beaucoup.
Okay.
Ce qui m'a beaucoup apporté, c'est les relations avec les marques. parce que j'ai fait quand même quasiment un tiers de ma vie avec le même équipementier. Du coup, c'est ça qui a fait que les relations, comment tu te comportes avec la marque, avec les gens aussi, le réseau. Et je pense que ça aussi, tu peux le voir. C'est ton comportement qui fait que bah, tu as des recommandations, que tu bosses avec des gens, que tu peux évoluer. Et aussi ce que tu appliques, ce que tu apprends avec le sport. Parce que je pense que tu étais sur un sport qui était aussi difficile, peu médiatisé. Mais aujourd'hui, limite, tu es une référence pour des gens. Alors que tu viens d'arrêter à seulement 19 ans, et c'est quand même, enfin même peut-être 18, 17, enfin c'est assez jeune. Et donc c'est ça qui fait la diff. Et l'écosystème français, il y a beaucoup de choses à modifier. Et je pense qu'il faut des visages et des personnes influentes pour pouvoir le faire. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais.
Ok, ouais, si, c'est bon.
Mais d'ailleurs, comment tu vois l'évolution dans le cyclisme? Parce que là, on parle du sport de manière générale, mais est-ce que dans le cyclisme, il y a cet attrait pour l'aspect fashion, pour les marques, où t'as pas.
C'est compliqué. C'est compliqué, ouais.
Mais comment tu le perçois? C'est dû à quoi? Cette réticence, peut-être, c'est pas dans la culture du cyclisme?
Je sais pas, c'est vrai que ouais, dans le cyclisme, c'est compliqué. Même c'est vrai que là, tu me poses la question, j'y pense que ils s'habillent pas, hein, les cyclistes. À part un événement, ils vont sortir un costume noir, mais en vrai. Non, c'est vrai qu'ils s'habillent pas et je pense que c'est ce qui me manquait beaucoup. Moi, je le disais tout le temps à mon coach. Pourquoi on s'habille pas? Pourquoi on n'a pas de flow? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Parce que moi, très jeune, bah du coup, j'ai connu Dadju très jeune. Dadju, l'équipe Abou, Dadju, etc. On allait beaucoup au combat de Tony Yoka, par exemple. Et moi, du coup, je kiffais être stylée, tu vois. Je sortais de l'entraînement, j'étais stylée, j'allais là-bas, je faisais mes photos, je postais sur Insta. Mais c'est vrai que les cyclistes, ils me regardaient en mode, mais tu fais quoi là?
Comme une
Pourquoi...
extraterrestre.
Ouais, tu fais quoi? Mais en fait, ils sont en claquettes, chaussettes, ils vont au self, ils rentrent dormir. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui encore, hein, c'est vrai.
Maintenant, on va plus se tourner vers la stratégie des marques. Je vais prendre l'exemple de la marque Puma en reprenant les infos d'un article du magazine Views. L'article, il indique qu'en de 2011 à 2013, les bénéfices de la marque chutent de 230 millions d'euros à 5 millions d'euros. Aujourd'hui, on peut le remarquer grâce à une nouvelle stratégie marketing que Puma s'est redevenu au devant de la scène, avec pas mal d'ambassadeurs, etc. Comment on peut analyser leur stratégie de marque et ce retour en force? Vous pensez quoi de la stratégie, par exemple, d'une marque telle que Puma?
Moi, Puma, ce qui m'a marqué cette année, c'est Puma X Ami. Ça revient à la mode au final, le sport et la mode, et ce qu'ils ont fait au niveau de leur visage qu'ils ont mis justement sur cette collaboration. Je pense que c'est ce qui a beaucoup impacté. Personnellement, Puma, c'est vrai que voilà, je la vois un peu comme une marque de sport, mais cette année, ça m'a beaucoup impressionné la collaboration qu'ils ont faite, toutes les publicités qu'ils ont pu faire et toute la mise en avant qu'ils ont fait. Et ouais, je trouvais ça grave lourd.
Ouais, et après, il y a tout un écosystème. Je pense que le global a lancé une stratégie assez large. Quand tu vois que Jay-Z est un peu le creative director, c'est assez fou. Après, bah, il a fait des connexions aussi dingues, hein. Quand tu vois qu'ils ont un visage comme Rihanna, Dua Lipa, ça fait qu'il y a une mondialisation qui suit justement ce move-là. Aujourd'hui, on a beau parler de Fenty sur le côté vraiment cosmétique, mais sur le côté lifestyle, bah, avec Puma, ce qu'ils ont mis en place, aussi l'impact qu'il y a eu sur le sport numéro un, entre guillemets, dans le monde, qui est le foot, en investissant sur Manchester City, le Bayern, même Marseille, puisque Marseille, c'est une terre de football. Voilà, tu te rends compte, même quand tu regardes un match, l'équipe de France de foot, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de joueurs qui portent des crampons Puma aujourd'hui. Tu vois, en 98, il y avait Robert Pires et c'était déjà assez ouf avec ses crampons King, mais aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment très large. Tu touches tout le monde. Et voilà, la collab avec Ami montre que aujourd'hui tu fais des crosses. Il y a une marque qui, comme Adidas, qui domine un peu aujourd'hui avec toutes les collabs faites. Nike, c'est très, très spécifique aujourd'hui. Mais voilà, on casse un peu les codes. Balenciaga, regarde, ils font des crosses avec tout le monde. Demain, peut-être qu'une marque de luxe deviendra un équipementier d'un club de foot. Ça peut être mis en place. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus trop de limites. Je pense que les codes sont un peu cassés. Et c'est pour ça que quand ça touche la mode, la créa, et aujourd'hui se dire, OK, je suis juste un styliste, c'est, je pense, pas assez suffisant. C'est de dire, OK, je peux être ton styliste, mais je peux mettre ta strat. Je peux mettre ta strat, mais aussi je peux dire que tu auras tel résultat là, je sais où je veux t'emmener. Et c'est ça qui est intéressant dans son discours et dans ce qui est mis en place bah, dans des grandes marques aujourd'hui.
Et est-ce qu'il y a des marques en particulier qui peut-être à l'origine n'étaient pas tournées vers les athlètes, et que aujourd'hui vous voyez être intéressé par les athlètes. Et vous pensez quoi de ces nouvelles stratégies?
Bah, moi, je vais donner un exemple. Je vais donner l'exemple d'Oakley. Ouais. Ok, de base, c'est plutôt du ski, c'est plutôt les sports de mer, ouais, le cyclisme. Et aujourd'hui, tu as une égérie comme Kylian Mbappé.
Ouais.
Donc, tu casses vraiment les codes. Je pense que là, la dernière collab de Dior avec Mélanie Dos Santos et Isao Ratibus, ouais. Encore une fois. Tu casses encore une fois les codes parce que bah, l'escrime c'est très mineur, hein, c'est rare de voir du luxe dedans. La gymnastique c'est différent parce qu'il y a quand même une partie esthétique, mais ces marques là aujourd'hui se rapprochent petit à petit. Il y a un créneau aussi, bah, LVMH c'est français et on a un bel événement qui arrive d'ici 2 ans et donc tout le monde veut aussi communiquer. Il y a de la promotion un peu subtile. Nous on a pu le voir, hein. J'ai des clients qui sont qui ont des marques de luxe et qui font des crosses avec des clubs de foot et bah, parce que on demande et surtout que un public aujourd'hui, un fan de foot, il vient pour consommer du football, mais il y a tout ce qu'il y a aussi autour. Et donc ce qui pouvait se faire comme pour la musique avant, ça se développe maintenant pour le foot, ça se développe pour le basket, hein. On voit la NBA qui est très agressive sur le continent européen parce qu'il y a beaucoup de choses à changer et donc c'est important de tout voir. Et bah, c'est de la strat, c'est du business, c'est aussi pour ça qu'on est là. Sport stratégie, on voit chaque semaine des sujets sur l'écosystème, le monde du sport, comment ça change, les chiffres. On voit aussi l'évolution qui est très européenne pour le moment, même s'il y a la Coupe du Monde qui sera au Qatar. Et après on voit que à la fin des JO, à la fin des championnats d'Europe de foot en 2024, on va se diriger plutôt vers les États-Unis, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Donc, du coup, voilà, c'est des données, c'est des data, c'est du business et il faut suivre.
Là, tu parlais aussi d'un grand événement qu'on va accueillir, les JO. Est-ce que tu as des demandes de marques
Oui.
Et d'athlètes.
Oui, oui, et c'est aussi beaucoup moi qui mets le point justement sur ce côté-là, du fait que voilà, si la personne en question est sélectionnée au jeu, c'est quelque chose tout de suite qui parle beaucoup plus à la marque.
Ok. Donc il y a toujours cet aspect performance ouais. qui est au centre ouais, du ouais. débat. Donc on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un message peut-être à faire passer à ceux qui nous ont écoutés?
Je dirais que faut être audacieux parce que moi c'est l'audace qui m'a beaucoup aidée à mes débuts et qu'il faut pas avoir peur parce que comme on dit les plus belles choses se passent derrière nos peurs et c'est réel. Donc si j'avais quelque chose à dire ça serait ça et avoir confiance en soi, c'est important.
Okay. Un super message. Merci à toi pour ta présence.
Merci de venir chez nous. Merci.